15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets, sans tabou, c'est sur Europe 1. Il sera à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin urgentiste. Et votre quotidien, quand vous n'êtes pas sur ce plateau, c'est d'aller soigner les patients chez eux, à leur domicile. En tout cas, chez nous, ici, du lundi au vendredi, ce sont les auditeurs d'Europe 1 que nous allons conseiller. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au sommeil et à toutes les solutions et les traitements pour mieux dormir avec notre invitée, la spécialiste du sommeil, Sylvie Royan-Parola. Vous verrez qu'on soit un ado ou une personne âgée, la réponse médicale n'est pas forcément la même. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la torsion testiculaire. Une urgence qu'il faut prendre très au sérieux, vous allez voir. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, aujourd'hui on parlera des ballonnements ponctuels ou récurrents. On vous dira ce qu'il faut faire pour les soulager. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, on va parler de simulation. Faut-il absolument chercher à savoir si l'autre fait semblant de prendre du plaisir? Vous verrez que ce n'est pas si simple. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Ludovic, 40 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, j'ai vu mon médecin généraliste la semaine dernière, il m'a demandé de faire un électrocardiogramme à l'hôpital, je ne connais pas du tout, ça me fait un peu peur juste le nom. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est et est-ce que j'ai forcément une maladie grave? Merci beaucoup.
Bon Jimmy, c'est vrai que quand on nous prescrit comme ça un examen complémentaire d'imagerie ou autre, on est toujours un petit peu anxieux. Là, pour répondre à Ludovic, l'électrocardiogramme, qu'on appelle aussi l'ECG, concrètement, ça sert à mesurer quoi?
Alors, l'électrocardiogramme, souvent, c'est aussi au cabinet du médecin généraliste, ça sert à mesurer l'activité électrique du cœur. C'est pour voir globalement comment se passe la conduction, si votre cœur se contracte correctement. C'est un examen qui est indolore et qui permet de dépister certaines anomalies, des troubles du rythme, de la conduction ou parfois une paroi un peu trop épaissie, ce qui donne l'hypertrophie auriculaire ou ventriculaire, notamment lorsqu'on a l'hypertension artérielle qui n'est pas traitée.
Alors, oh là là, hein, vous parlez de troubles du rythme, de parois cardiaques hypertrophiées, mais c'est pas très rassurant tout ça. Pour Ludovic, là, si son médecin lui prescrit cet électrocardiogramme, c'est qu'il suspecte un truc aussi grave que ça?
Non, pas forcément. On le fait souvent en titre de dépistage, de façon systématique, lors des examens pour les certificats d'aptitude au sport en compétition. Parfois, on peut en faire lorsqu'il y a une douleur à la poitrine, douleur thoracique, et surtout, ça sert de référence. Lorsque vous faites un électrocardiogramme, il est valable toute la vie. Et le jour où il vous arrive peut-être quelque chose, on peut le comparer, donc c'est important d'en faire à partir d'un certain âge.
Donc il faut le garder, ce dernier électrocardiogramme. Et donc, le jour de l'examen, ça se passe comment? On est branché à une machine? En tout cas, est-ce que, on peut dire déjà, en tout cas, on peut dire aux patients que c'est pas douloureux, hein, ça c'est sûr.
C'est indolore, c'est très rapide, ça se fait très facilement, même chez les enfants, on peut en faire sans problème. On a des électrodes qu'on met au niveau de la poitrine, il y en a 6, et 4 au niveau des membres, poignets et chevilles. Ça dure moins de 30 secondes, et l'enregistrement est fini, et puis vous repartez. C'est absolument très rapide.
Et quand on fait un ECG, un électrocardiogramme d'effort, là, c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, alors là, on est dans d'autres circonstances. C'est lorsqu'on se demande s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente, si on se dit que les artères sont peut-être un peu rétrécies pour éviter un infarctus, c'est du dépistage. Ou parfois, après un infarctus, lorsqu'on a eu une crise cardiaque.
Et là, on est sur un tapis, sur un vélo.
Exactement, ouais. On se met à courir avec un vélo et puis on mesure l'activité du cœur à l'effort pour voir comment votre cœur réagit. Mais ça, ça se fait plutôt dans les centres spécialisés. Mais encore une fois, c'est indolore et ça se fait régulièrement.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Alexandre, 24 ans. Il nous appelle de Nantes. On écoute sa question.
Bonjour à toute l'équipe santé. Je voudrais vous raconter une petite angoisse que j'ai en ce moment. C'est que j'ai fait un tatouage au aîné début du mois d'août sur la plage. C'était en vacances en Tunisie. Mais en ce moment, j'ai une petite angoisse. Je suis pas très tranquille. C'est que j'ai vu pas mal de photos assez moches sur Twitter qui montrent en fait des gens qui ont des mains qui sont brûlées avec ce tatouage au aîné. Et du coup, bah, ça m'inquiète de plus en plus. Donc, j'aimerais savoir si ça va m'arriver. Est-ce qu'il faut que je mette une pommade pour prévenir en guise de prévention dessus? Et est-ce que vous pourriez en fait me rassurer? Est-ce que je suis pas hyper rassurant en ce moment? Donc, je vous embrasse et merci beaucoup de votre aide.
Merci Alexandre pour votre question. Alors Jimmy, le tatouage au aîné, c'est vrai que nous aussi dans ce rendez-vous, on a reçu beaucoup d'auditeurs d'Europe 1, des photos, hein, ils nous ont envoyé des photos avec des réactions cutanées assez effrayantes. Alors en fait, le henné, les petits tatouages au henné, c'est joli, mais ça peut être assez dangereux, on est d'accord ?
Oui, ça peut. Seulement si on rajoute quelque chose de particulier, on en parlera après. Mais c'est vrai que le tatouage au henné, il est temporaire. On le fait en été. C'est pas forcément dangereux, mais par contre, ça peut l'être. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune enfant de 8 ans. C'est une histoire qui a été publiée, qui a fait un tatouage en Égypte dans le dos, un beau dragon. Tout allait bien. Mm-hmm. Sauf qu'ils ont décidé de refaire une petite retouche pour que le tatouage dure un peu plus longtemps. Ah oui. Et à partir de ce moment-là, ils ont rajouté un petit produit qui fait qu'il a fait une réaction allergique grave avec des lésions bulleuse, suintante, qui conduit à une réaction allergique très sévère. Donc ça peut être très dangereux.
Et donc on finit à l'hôpital.
Et donc on peut finir à l'hôpital parce que c'est comme une brûlure tout simplement.
Et c'est quoi le problème avec le henné noir, hein? Je crois que c'est
voilà,
celui-là.
Voilà, c'est ça exactement. Là, ce petit garçon, et là souvent les lésions qu'on peut voir, c'est lorsqu'on rajoute du henné noir. Sauf qu'à l'état naturel, le henné, il n'est pas noir.
Ah
il
bon
est plutôt jaune, orange, mais il n'est jamais noir. Et il est noir lorsqu'on rajoute un colorant qu'on utilise plutôt dans l'imprimerie, avec un produit qui s'appelle le PPD. Et ce produit-là,
qui est toxique, là, pour
qui est
le coup.
Toxique, exactement, qui est allergisant. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, ça permet de sécher plus vite et le tatouage dure plus longtemps. Donc les gens sont souvent tentés, mais ne faites surtout pas ça. Le danger est là, c'est dans le henné noir, le produit qu'on rajoute.
Donc les tatouages au henné noir, du coup, on oublie complètement, hein, c'est ça ?
Au henné noir, on oublie, mais le classique, oui, ça dure un peu moins longtemps.
Naturel,
le henné naturel,
le
il n'est pas allergisant, sauf cas particulier, ça dure un peu moins longtemps. En général, on arrive à le garder une quinzaine de jours, et puis du coup, tout se passe bien à ce moment-là.
Et qu'est-ce qu'on recommande du coup à ceux qui s'inquiètent, comme cet auditeur qu'on vient d'entendre, qui ont leur tatouage là depuis plusieurs semaines au henné noir et qui du coup ont peur, ils doivent le faire retirer absolument en urgence ?
Non, pas forcément. La réaction allergique survient surtout dans les 48 premières heures. Et on en a jusqu'à 10-15 jours grand maximum. Au-delà, c'est que finalement, ça s'est bien passé. Donc, pas d'urgence à ce moment-là. C'est seulement si vous avez quelque chose dans les premiers jours.
Mais on n'en refait pas au henné noir. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Alexandre qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la torsion testiculaire, un problème peu connu mais qui peut avoir, si on n'agit pas vite, de graves conséquences. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, Sylvie Royan-Parola. Elle est spécialiste du sommeil et avec elle, on fera un point sur les problèmes d'endormissement, les insomnies, comment s'en sortir, quel que soit l'âge. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité du jour, la spécialiste du sommeil Sylvie Royan-Parola. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de torsion testiculaire. Ah là là, rien que de le dire, ça fait mal.
Ah oui,
c'est quoi exactement la torsion testiculaire ?
Alors la torsion testiculaire, c'est un testicule qui est un peu trop lâche, qui est mal attaché et qui va se tourner sur lui-même, entraînant un apport en oxygène réduit et d'où une douleur brutale d'un testicule.
Et c'est une urgence, hein ? On peut attendre combien de temps quand on
Alors,
a ça ?
C'est une urgence chirurgicale absolue. Le maximum qu'on puisse attendre, c'est 3 heures. Au-delà, le testicule nécrose et un risque tout simplement que les tissus soient morts à jamais et qu'on soit obligé de retirer le testicule.
Donc on fait quoi ? On appelle le 15 si ça nous arrive à la maison, enfin si ça arrive à un jeune homme ou un homme.
Exactement. Toute douleur brutale d'un ou du deuxième testicule, mais c'est souvent un, doit absolument vous faire appeler le 15 pour la simple et bonne raison qu'il pourra déjà vous donner les premiers conseils et puis surtout vous orienter vers un hôpital où il y aura un service d'urologie pour vous opérer éventuellement. Parce que si finalement vous prenez votre voiture et vous allez dans un petit service ou dans une petite clinique où il n'y a pas de chirurgien, vous allez attendre en salle d'attente,
et
vous allez attendre des heures
temps.
Et on perd du temps. Donc on prend avis auprès du 15, on n'hésite absolument pas.
Et chez les adolescents, c'est peut-être particulièrement sensible. Ça se manifeste de la même manière d'ailleurs chez eux ?
La douleur est strictement identique. La seule chose, c'est que parfois les adolescents n'osent pas dire qu'ils ont mal aux testicules. J'ai vu récemment un ado qui disait avoir vaguement mal au ventre. Il avait 16 ans. Et puis en poussant un peu l'interrogatoire, il dit « Oui, finalement, c'est le testicule qui me fait mal. » Donc vous, parents, n'hésitez pas. Si vous voyez votre enfant plié en deux en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe ?» Posez-lui la question. As-tu mal au testicule ? Il vous dira oui ou non. Si c'est non, on passe à autre chose.
Alors mettons, j'ai mal au testicule et j'ai un peu de fièvre et ça brûle quand je fais pipi. Est-ce que ça, c'est une torsion testiculaire aussi ?
Non, ça en revanche, on est plutôt dans le cadre d'une infection urinaire ou une infection du testicule qui est plutôt un peu bénigne et qui prend nettement moins d'urgence. Donc dans ces cas-là, on a le temps de consulter.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle de sommeil avec notre invité, le docteur Sylvie Royan-Parola. Elle est psychiatre et surtout donc spécialiste du sommeil.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Bonjour docteur Royan-Parola.
Bonjour.
Alors aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, hein, donc on ne peut pas commencer cette émission sans parler d'abord du sommeil des enfants, même si après bien sûr on va se consacrer aux problèmes des adultes. Est-ce que les jeunes enfants, enfin les enfants français, ils dorment assez déjà ?
Alors ils dorment moins qu'avant.
C'est-à-dire que l'on voit vraiment une réduction du temps de sommeil, notamment les veilles de jours de repos, le mardi soir et le samedi, ils se couchent beaucoup plus tard, et donc ils dorment moins. Et on voit des enfants qui globalement se couchent plus tard, même des petits. Alors qu'un petit enfant va de toute manière se réveiller tôt, non seulement à cause de l'école, mais parce que son rythme biologique est d'être lève-tôt. Donc il faut vraiment que les parents fassent très attention et les mettent au lit avant la fin de la soirée de la famille, parce que c'est pas du tout le même rythme.
Jimmy ?
Mais est-ce que tous les enfants ont les mêmes besoins en sommeil ? Peut-être que certains ont besoin de dormir un petit peu moins ?
Alors tout à fait, il y a des différences chez les enfants comme chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on voit des courts dormeurs, des longs dormeurs, on voit aussi des enfants qui sont très couche-tôt, lève-tôt, d'autres un petit peu moins couche-tôt, lève-tôt, donc ça équivaut à des couches-tard chez les enfants, mais il y a quand même, ça c'est pour des exceptions, ça représente peut-être 3% de la population aux extrêmes, donc ça fait pas beaucoup, la majorité a vraiment besoin de beaucoup de sommeil, et quand je dis beaucoup de sommeil, c'est 11 heures pour un petit qui a 6 ans par nuit,
ah oui,
à moins de 10 ans c'est 10 heures par nuit, et vous arrivez uniquement à des sommeils proches de l'adulte, à l'adolescence, où ils ont quand même besoin de 8 heures, ce qu'ils ne font pas tous, malheureusement. Il y en a 30% qui ne dorment que 6 heures ou 6 heures et demie par nuit.
Oui, vraiment pas beaucoup. Alors, justement, un petit conseil peut-être pour les parents qui n'ont déjà pas réussi à coucher les enfants tôt hier soir. Comment on s'y prend, là, ce soir ? Là, ça y est, la rentrée, elle est faite, il y a moins de stress, on sait où on va demain. Comment on peut les coucher, plutôt ? C'est quoi, les conseils ?
Tout simplement, en ritualisant un peu les choses, c'est-à-dire que tous les soirs, l'heure du coucher pour un enfant dans une classe d'âge va être au même moment. Donc,
c'est quelle heure, grosso modo ?
Ça dépend. Si c'est un tout petit, ça va être vers 8h, 8h30. S'il a un petit peu plus grand, ça va être plutôt 8h30, 9h moins le quart. Et si c'est un petit du collège, il sera à 9h, mais pas plus tard.
Hein. Jimmy ?
Est-ce que vous avez une astuce pour nous, les parents, qui ont des enfants qui ne veulent pas aller dormir ou qui mettent du temps à s'endormir, qui peuvent rester 1 heure, 2 heures dans le lit à jouer, à parler un peu tout seul ?
Alors déjà, si un enfant se couche et qu'il s'occupe, dirons-nous, tout seul, c'est pas le souci parce que il va trouver son rythme. Mais il faut qu'il soit dans une situation où il peut être en repos. Alors ce qu'il faut éviter, bien évidemment, c'est lui donner un iPad ou une tablette, un téléphone pour qu'il puisse s'occuper. Il faut qu'il soit dans son lit avec éventuellement des livres, ses nounours, tous ces petits objets fétiches.
Mais pas d'écran dans la chambre.
Mais pas d'écran.
Non. Merci beaucoup docteur Sylvie Porion-Parola. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons continuer à parler sommeil et surtout des différents troubles dont souffre un tiers des Français. On parle là d'insomnie, du syndrome des jambes sans repos ou de problèmes d'endormissement. On fera le point et surtout, on vous donnera tous les moyens pour régler ça.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble ce lundi jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, docteur Sylvie Royan-Parola. Vous êtes psychiatre et spécialiste du sommeil. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de comment soigner les troubles du sommeil les plus fréquents. Mais d'abord, mal dormir, un sommeil de mauvaise qualité, ça fait quoi concrètement sur notre santé, en fait ? Quelles sont les conséquences ?
Il y a beaucoup de conséquences parce que le sommeil, c'est finalement le moment où notre corps va se reconstruire, se régénérer, classer un peu toutes les informations qu'il faut classer. Il y a tout un travail de mémoire aussi, de mémorisation qui se consolide pendant le sommeil. On grandit pendant le sommeil, on reconstitue ses réserves pendant le sommeil, on renforce ses défenses immunitaires pendant le sommeil. On régule aussi le métabolisme, c'est-à-dire la régulation du poids, elle se fait aussi en grande partie au cours du sommeil. Et puis, bien sûr, il y a toute la régulation cardiovasculaire aussi.
Et donc, quand on ne dort pas bien, on a tous ces problèmes, la cardiovasculaire,
voilà,
on grossit.
Par défaut, effectivement, dès qu'on ne dort pas bien, tout ça, ça ne va pas bien se passer. Donc, c'est énorme comme truc. Et alors, le mal dormir, c'est une chose. Il y a aussi ne pas dormir assez. Et on voit dans notre société des gens qui dorment de moins en moins, qui prennent sur leur sommeil pour faire des tas d'autres choses. Et donc, du coup, qui dorment insuffisamment, et ça, c'est pas une bonne chose.
Pourquoi on est si nombreux, les Français, à mal dormir ? Est-ce que d'ailleurs, nos voisins, je sais pas, européens, ils dorment aussi mal que nous ?
C'est général, ou à peu près. Il y a à peu près dans toutes les sociétés, dans tous les pays, y compris en Afrique, il y a vraiment de gros changements qui sont en partie liées à notre mode de vie. Hein, et j'avais fait une émission sur RFI qui était intéressante parce qu'il y avait des témoignages d'Africains avec les rapports au téléphone portable et qui disaient « maintenant je suis réveillée toute la nuit par les messages, etc. et je vais sur Internet la nuit ». Et c'est des changements de mode de vie vraiment radicaux.
Et du coup, vous évoquez ça, nous on pense que l'hyper-exposition aux écrans c'est plutôt un problème d'ado ou d'enfant, alors que finalement nous aussi les adultes on est concernés.
Oui, bien sûr, c'est vrai pour tout le monde. On est en train de changer notre rapport au sommeil et notre rapport... au temps, à la façon de répondre. Et le téléphone est un diktat énorme parce qu'il y a non seulement l'écran, mais il y a les messages. Et vous avez des gens qui répondent pendant la nuit.
À 2h du matin, 3h du matin.
Il y a une enquête de l'INSV l'année dernière qui montrait que 50% des gens qui ont un message la nuit y répondent.
Ah oui, c'est
complètement fou.
Et c'est pas le stress aussi, nos vies un peu à 100 à l'heure là, qui nous font mal dormir. Moi, je me dis, si on mettait tous les mauvais dormeurs sous anxiolytique, peut-être on dormirait mieux. C'est un peu expéditif, j'avoue, hein, comme solution.
Il y a deux techniques. La méditation est un aspect intéressant. Mais c'est vrai qu'on a cette habitude maintenant de répondre toujours, tout le temps, tout de suite, et de faire tout en même temps. Et ça, il faut qu'on apprenne justement à reséquencer les choses, à reprendre le temps de respirer un peu pour ne pas être dans cette course qui est très préjudiciable pour notre sommeil.
Jimmy ?
Et si on pouvait donner aux auditeurs une liste de certains traitements qui peuvent perturber le sommeil, parce que souvent on oublie que ce qu'on ingère peut aussi avoir une conséquence. Vous avez pouvoir donner quelques-uns?
Je dirais les deux ennemis du sommeil. Il y en a un qui est vraiment celui qu'on prend tous les jours, c'est le café. Le café, si on en prend beaucoup, si on en prend 3, 4 ou plus dans la journée, il va y avoir un effet cumulatif qui va faire qu'on va avoir du mal à dormir.
Il y a des médicaments?
Et dans les médicaments, le pire de tous sont les corticoïdes. Alors, les corticoïdes, on ne les prend pas n'importe comment, mais dès qu'on a une infection ORL, dès qu'on a des douleurs chroniques avec un aspect inflammatoire important, on peut avoir des doses importantes de corticoïdes et donc avoir un sommeil extrêmement perturbé.
Alors on va commencer un tout petit peu par le premier trouble du sommeil, celui qui est le plus fréquent, l'insomnie. C'est quoi une insomnie d'abord? Si on se réveille plusieurs fois par nuit, ça m'arrive, hein. Parfois je m'éveille la nuit mais je me rendors. Donc juste se réveiller, c'est pas ça être insomniaque?
Non, vous avez parfaitement raison. En fait, il y a la notion à la fois de quantité, c'est-à-dire que si le sommeil est fractionné longtemps avec des difficultés de rendormissement, là on est vraiment dans une problématique d'insomnie. Mais sinon, tout le monde se réveille à peu près à la fin de chaque cycle. Et plus on avance en âge, plus on va avoir conscience de ces éveils. Après, sinon, il y a la qualité du sommeil aussi qui fait que le lendemain, quand on se réveille, on ne se sent pas reposé. On est toujours dans une espèce d'entre-deux avec le sentiment qu'on n'a pas récupéré. Et là, il y a souvent quelque chose à voir au niveau du sommeil, que ce soit des apnées du sommeil, des mouvements des jambes dans le sommeil ou une maladie intercurrente.
Merci beaucoup docteur Royan Parola. On va continuer à parler de tout ça, vous restez avec nous. Dans un instant, donc, on continue à parler des problèmes de sommeil, ce qui empoisonne nos nuits. On va bien sûr revenir sur l'insomnie, on n'en a pas terminé, et ses traitements, et puis aussi sur d'autres troubles du sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos. Et bien sûr, on va vous donner des solutions pour enfin dormir comme un bébé. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre et spécialiste du sommeil. Alors, il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué que c'était finalement l'insomnie chronique. Et justement, en France, est-ce qu'on sait combien il y a de personnes qui souffrent réellement d'insomnie?
Alors, il y a 10% de la population qui a vraiment une insomnie sévère et il y a à peu près 20-25% de gens qui sont insomniaques, mais plus occasionnels. C'est-à-dire que ça dure une certaine période, puis après, ça s'arrête. Oui, mais ça reprend après. Et donc, ça veut dire une frange de population vraiment importante.
Oui. Jimmy ?
Et que pensez-vous des somnifères ? Parce que souvent, on se dit, j'ai de l'insomnie, je dois prendre un somnifère. Et c'est une demande qui revient souvent en consultation. Même chez les sujets jeunes qui ont une insomnie transitoire, on doit leur dire non et informer les gens que ce n'est pas un bon traitement ?
C'est pas si simple que ça, si vous voulez. Les somnifères ne sont pas du tout le traitement de l'insomnie chronique, ça c'est certain. Mais maintenant, ça peut être des possibilités sur de très courtes périodes pour des gens qui sont dans des situations vraiment de crise, pour leur permettre de passer cette crise-là. Mais il faut vraiment, dès le départ, quand on prescrit un somnifère, dire « de toute manière, je vous le prescris pour 5 jours, 8 jours, 10 jours ». Au maximum 3 semaines, et on ne met pas un traitement en disant bah, je vous le fais pour 28 jours, on se revoit dans 28 jours, on le represcrit.
Il y a un risque d'accoutumance, après les gens ne pourront plus dormir sans
voilà, et puis surtout il y a d'autres solutions. Mais quand vous avez des situations qui sont vraiment de crise énorme, le fait de pouvoir dormir, ça permet quand même de pouvoir appréhender la journée du lendemain d'une façon autre. Donc ça, c'est toujours avec délicatesse qu'il faut aller sur ce sujet-là.
Alors vous dites que l'insomnie, on ne la traite pas avec des somnifères. Du coup, vous la traitez avec quoi quand il y a un insomniaque qui débarque dans votre consultation? Vous le commencez par quoi pour
Alors c'est des consultations très longues, hein, parce qu'on fait l'inventaire un petit peu de tout le mode de vie, de tout ce qui s'est passé. On recherche aussi des comorbidités dans notre jargon, notamment psychiatriques avec la dépression, qui est quand même l'une des premières causes d'insomnie. Et puis, il y a tout ce qui est travail sur les habitudes et toute la façon dont les gens ont répondu après à leur insomnie. Notamment, quelqu'un qui dort mal va dire bah, « je vais me coucher un peu plus tôt, comme ça je dormirai un peu plus longtemps ». Et puis, il va rester au lit le matin en se disant bah, « je vais rattraper du sommeil ». Et c'est tout l'inverse qu'il va falloir faire.
Vous enlevez tous les nuisibles aussi.
On met en place de nouveaux comportements, de changements d'habitude. Donc, ça s'appelle des thérapies comportementales et cognitives. Ça demande du temps, c'est-à-dire qu'il faut 4, 5, 6 séances pour arriver à restructurer le sommeil. Et puis après, la personne peut repartir sur quelque chose qui fonctionne d'une manière correcte.
Donc vous voyez, vous promettez à peu près de guérir les insomniaques sans médicaments en un mois et demi, quoi, grosso modo.
Plutôt six semaines.
Et alors, à partir de quand, justement, pour les personnes qui nous écoutent, qui dorment mal, qui ont des insomnies, enfin qui ont l'impression d'en avoir, à partir de quand il faut consulter, justement?
Il faut consulter dès que l'insomnie devient régulière et au-delà de 3 mois. S'il n'y a pas eu de solution qui fonctionne, il faut vraiment faire un bilan parce que derrière, on va trouver des pathologies, non seulement du sommeil spécifique, mais tout ce qui est dépression, tout ce qui est maladie associée. Il peut y avoir des maladies aussi douloureuses qui vont donner des insomnies et après, tout se concentre sur le sommeil alors qu'en réalité, c'est l'autre pathologie qu'il faut traiter. Donc tout ça, il faut le décortiquer avec un médecin spécialisé.
Jimmy ?
Alors, on va parler un petit peu d'un autre trouble du sommeil, le syndrome des jambes sans repos. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ?
C'est une maladie qui touche 5 à 8% de la population en France, plus la femme que l'homme, et qui est une pathologie qui se traduit par à la fois des choses qui sont perceptibles par la personne, c'est-à-dire que dans la soirée, parce qu'il y a vraiment cette dimension, ça apparaît le soir, hein, des sensations désagréables dans les jambes qui sont pénibles, qui font que la personne peut déjà a des difficultés à rester assise, mais dès qu'elle s'allonge, là, ça devient extrêmement pénible. Il faut qu'elle bouge les jambes, qu'elle se les frotte, qu'elle se dégourdisse les jambes, qu'elle marche, donc, pour essayer de faire passer ce problème.
Ça vient de quoi ? C'est quoi les causes de ce syndrome ?
C'est en fait une anomalie au niveau de la dopamine qui est régulatrice du contrôle moteur au niveau des jambes et qui va dysfonctionner. Et quand on veut traiter ces patients, il y a des médicaments dopaminergiques spécifiques qui vont bien fonctionner et qui vont permettre à la personne de pouvoir s'endormir. Moi, j'ai vu des gens qui passaient la nuit debout, hein, parce que c'était impossible de s'endormir tellement c'était pénible. Dès qu'on met en route les traitements, ça fonctionne. Après, si ça échappe au traitement, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres médicaments que les dopaminergiques. Et vous avez aussi souvent des altérations du fer. Et donc, on voit par exemple chez les insuffisants rénaux qui ont des perturbations du fer importantes, des syndromes de jambes sans repos qui apparaissent et qui sont vraiment très difficiles là, pour le coup à traiter.
Alors heureusement, il y a quand même des solutions, vous nous avez dit. Hein. On pourrait aussi parler de l'apnée du sommeil, mais bon, on n'a pas le temps, c'est quand même une pathologie importante. On fera peut-être d'ailleurs une émission spéciale sur le sujet très bientôt, vous viendrez nous en parler. Un mot peut-être sur le sommeil des seniors. On sait que beaucoup de personnes âgées dorment mal, vous l'avez dit, ça change en vieillissant, mais est-ce que c'est inéluctable? En vieillissant, on va tous mal dormir?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle mal dormir. On dort différemment. Mais effectivement, il y a des gens qui supportent moins bien de se réveiller la nuit, comme ils supportent mal d'avoir des rides, par exemple. Le sommeil, quelque part, se ride un peu. C'est-à-dire qu'il se modifie dans ses horaires, il se modifie dans sa perception. Globalement, le sommeil de la personne âgée ou très âgée est globalement plus léger. Et donc, il faut apprendre à faire avec parce qu'en fait, le sommeil, il vient jouer un rôle spécifique. Et c'est vrai que quand on vieillit, on a des besoins métaboliques qui sont moindres, des besoins physiques qui sont moindres, donc le sommeil, il s'adapte en quelque sorte. Et le deuxième problème, c'est que bien souvent, les personnes âgées passent beaucoup trop de temps dans leur lit et du coup, vont faire des trous dans leur nuit parce que le sommeil sera incapable de remplir 12 heures ou 15 heures passées au lit, c'est pas possible.
Jimmy ?
Et je vois beaucoup de personnes âgées avec des ordonnances chargées, notamment en somnifères, et on sait que sur le long terme, c'est nocif, notamment que ça pourrait
entraîner... Alors là, c'est un vrai problème.
Un peu la maladie d'Alzheimer. Est-ce que nous, médecins généralistes, parce que je m'inclus dedans, on est responsable de ces prescriptions ? Est-ce que c'est notre faute, finalement ?
C'est toute une mode de la médecine où c'était un symptôme, un traitement, c'est tellement facile de dire « j'ai tel truc » et on trouve la soi-disant solution. Mais là, pour le coup, chez les personnes âgées, il y a un vrai problème. On voit des gens au-delà de 70 ans, il y a 40 ou 50% de la population qui est sous somnifère, c'est fou.
Et on peut les faire décrocher ?
Ah oui, tout à fait.
Vous y arrivez, vous ?
Oui, absolument. On arrive vraiment à faire diminuer, au moins diminuer, voire arrêter les médicaments. Parce qu'en réalité, sauf s'il y a une pathologie dépressive importante ou une anxiété majeure, et on le voit chez certaines personnes âgées seules, chez elles ont pratiquement des états de panique la nuit, eh bien, dans les autres cas, on y arrive tout à fait.
Merci beaucoup, docteur Sylvie Pourayan-Parola, d'être venue sur notre plateau. Dans un instant, on va s'intéresser aux bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler des ballonnements, avoir le ventre gonflé ou même des flatulences. On n'en parle pas souvent, c'est un peu tabou, il faut dire. Mais dans Sans Rendez-vous, on a décidé qu'on n'en aurait aucun de tabou. Alors, on va vous donner quelques astuces pour éviter ce désagrément. On se retrouve dans quelques minutes. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des ballonnements et surtout de comment les prévenir et les soulager. On a été justement vous demander ce que vous faites, vous, pour gérer ce vilain désagrément. Je vous propose d'écouter le micro-trottoir de Benjamin Lévesque.
Des ballonnements. Je voulais savoir si je pète régulièrement.
Des ballonnements, oui, ça arrive, parce que je prends un certain nombre de médicaments. C'est ni odorant, ni de bruit, non.
Je n'en ai pas. Peut-être de temps en temps, quand on a trop mangé pendant les fêtes, etc. Oui, on est sujet peut-être à des mal de ventre, des ballonnements, mais c'est quand même assez rare.
Oui, un petit peu, mais je crois que les femmes, ils sont plus sujettes aussi. Peu importe où l'on soit, ça, c'est douloureux, quoi. Oui, après, il y a le côté un peu gênant.
Alors moi, ce que je fais, c'est que j'évite de prendre beaucoup de café. J'ai remarqué que ça favorisait pas mal les ballonnements. Je complète avec du charbon, des petites gélules de charbon qui peuvent servir 2-3 fois par jour.
Boire de l'eau et puis essayer d'évacuer au maximum.
Alors d'abord, Jimmy Mohamed, les ballonnements, on peut tous en avoir de temps en temps. Il y a beaucoup de franciliens qui l'ont reconnu dans ce micro-trottoir. Mais en fait, il se passe quoi dans notre système digestif ? Je crois que c'est un trop-plein d'air, de gaz même, c'est ça ?
Exactement. Pardon. C'est l'accumulation d'air au niveau de l'estomac ou de l'intestin qui fait que on gonfle tout simplement comme un ballon.
Et ça arrive comment, ce gaz, à cet endroit, justement ?
Alors, c'est lié à la fermentation provoquée par certains aliments, notamment les pâtes, les féculents ou certaines pommes de terre. Mais il y a aussi des boissons qui peuvent jouer, notamment le soda. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans notre tube digestif un champignon, le Candida albicans.
Il est là naturellement.
Qu'il est naturellement, en plus ou moins grande quantité. Et lui, il se nourrit du sucre que vous prenez. Mmh. Et plus vous mangez de sucre, plus il va fermenter des bactéries et va vous donner cette sensation de ballonnement avec des crampes et des douleurs abdominales.
Alors, est-ce que c'est pas dû aussi à l'air que l'on respire finalement ? Parce qu'on se dit qu'il y a de l'air, du gaz dans le ventre, mais on respire toute la journée, on peut pas s'empêcher de le faire, mais est-ce que c'est dû à ça ?
Alors, ça peut être le cas, mais notamment dans des services de réanimation lorsqu'on est intubé, que ce soit enfant ou adulte. Et là, effectivement, l'air poussé fait des ballonnements, mais vous et moi qui respirons normalement, de façon très modérée, puisqu'on n'a pas le choix de toute façon.
Alors, pour éviter les ballonnements, on peut déjà essayer de repérer donc les aliments. Vous parliez des féculents, de certains. Il y a les légumes secs aussi qui provoquent ce genre de problème. Mais après un bon repas, un repas trop copieux, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde finalement d'être ballonné. La solution, il n'y en a pas 36, non, Jimmy, c'est d'évacuer.
Eh oui, d'évacuer par le haut ou par le bas.
C'est ça.
Donc, vous pouvez vous libérer, Mélanie. Donc, soit on rote, soit on pète, tout simplement.
Voilà. Ça nous fait sourire, mais bon, c'est naturel.
Non, mais c'est vrai, c'est naturel. Et finalement, il ne faut pas se retenir de roter ni de péter. Ça
on essaie de le faire discrètement.
Oui, installer discrètement dans une pièce à l'abri où on accuse le voisin. C'est quelque chose qui marche souvent.
Ça, vous faites ça, d'accord.
Oui, c'est ma spécialité.
Il n'y a pas des médicaments ou des astuces pour soulager? Moi, je sais qu'après un repas un peu lourd, c'est vrai que j'ai tendance à boire de l'eau pétillante, mais en fait, je me dis, il y a du gaz maintenant, donc c'est totalement idiot.
Alors, évitez les bulles, parce que les bulles vont stimuler l'estomac, et notamment lorsque vous avez des nausées ou des vomissements, parfois on veut prendre un peu de soda. Il faut éviter parce que ça va vous faire vomir. De la même façon, les bulles peuvent vous donner de l'inconfort digestif. Donc, sur l'instant, vous allez évacuer un raw.
Mais j'ai vraiment l'impression que l'eau pétillante, ça fait du bien pour digérer.
Oui, mais non. Et d'ailleurs, on évite notamment lorsque les femmes allaitent de prendre trop d'eau pétillante parce qu'on se dit que ça peut donner des coliques au bébé.
Ah oui.
Donc, de la même façon, évitez les bulles lorsque vous vous sentez ballonné. Au contraire, ça va vous aggraver les choses. Donc, prenez simplement de l'eau. Et puis surtout, essayez de ne pas trop manger ou de manger progressivement. Mmh. On mange beaucoup trop vite, beaucoup trop et on ne boit pas assez. Alors que si finalement on respectait une règle simple, un tiers d'eau, un tiers d'aliments, un tiers d'estomac vide, eh ben, tout se passerait nettement mieux, on aurait moins de symptômes, moins ballonnés, et puis surtout, on pourra digérer plus facilement.
Ceux qui sont plus ballonnés plus souvent, c'est les gens qui mangent trop vite aussi, ça c'est important.
Oui, le fait de manger vite, parce qu'on a un mode de vie qui est finalement à 100 à l'heure. On prend un sandwich, on s'assoit même pas à table, on regarde son écran, et en 5 minutes, c'est réglé. Or, le fait de mastiquer, de prendre son temps, ça permet à l'estomac de digérer. La digestion est un effort physique important, et donc il faut simplement se relâcher et il faut éviter justement de trop se gaver, parce que dans ces cas-là, on est ballonné.
Et alors les ballonnements, c'est la plupart du temps anodin, mais sauf si ça dure trop longtemps, hein, on est d'accord. Si ces ballonnements, ils deviennent quasiment chroniques et qu'on a des grosses douleurs abdominales, là, il faut prendre les choses au sérieux, ça peut être plus grave, ça peut être quoi par exemple ?
Alors dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter, notamment lorsque vous avez tout d'un coup un transit qui se perturbe, une constipation brutale, au contraire une diarrhée, une perte de poids, un amaigrissement, il faut consulter votre médecin. Bien souvent, ça rentre dans le cadre de l'intestin irritable, donc c'est des douleurs un peu chroniques, pas très graves, mais c'est votre médecin généraliste qui pourra vous le confirmer.
Donc là, il faut consulter. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour ces conseils et donc pour tous ceux chez qui les ballonnements, les douleurs abdominales, c'est quelque chose de régulier. Et bien surtout, il ne faut pas hésiter à consulter. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, va nous parler de simulation. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour tous les deux.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle de sexualité, hein, avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas toujours les aborder. Alors aujourd'hui, vous allez commencer par répondre à la question que nous a posée Luc. Il a 23 ans, je vous la lis. Je suis avec ma nouvelle petite amie depuis un mois. Lors de nos rapports, elle n'a pas d'orgasme. Elle me dit que c'est normal, qu'il faut que notre relation s'installe. Cela m'étonne car ma précédente amie en avait à chaque fois. Donc ma nouvelle copine me dit que probablement elle simulait. Pensez-vous que ça puisse être vrai, que j'aurais pu ne pas m'en rendre compte? Bon Catherine, Luc, il a l'air quand même de se poser pas mal de questions sur sa relation actuelle et du coup même sur les précédentes. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Alors j'adore cette question parce qu'elle en pose plein. Elle en pose évidemment celle d'une jeune femme inquiète à l'idée qu'on puisse juger le temps qu'il lui faut pour avoir son plaisir. Et en effet, elle a raison. Parfois, il faut de la relation paisible, de la relation tranquille pour ne plus être en train de se regarder, s'observer, pour chercher au fond de soi les délices de la sexualité et du coït. Donc ça, c'est une chose d'un côté. Donc elle a tout à fait son discours est tout à fait légitime. Ceci étant, évidemment, Luc, il a 23 ans et il pense qu'il suffit de pénétrer une femme pour qu'elle vive des jouissances et un orgasme. Et évidemment qu'il oublie que les choses sont un peu plus compliquées que cela et qu'en effet, sa compagne précédente, soit avait déjà fait un cheminement par rapport à elle-même, lui donnant cette liberté et trouvant dans son lien à lui matière à jouissance, soit elle avait besoin d'asseoir la qualité de la relation. Et c'est très difficile pour une jeune femme qui plus est, mais pour une femme en général, de laisser le silence parce que sa première inquiétude, alors qu'elle vient faire l'amour pour jouir, sa première inquiétude est d'inquiéter son partenaire qui penserait ne pas être un bon amant.
Jimmy ?
Et comment est-ce qu'un homme lambda peut savoir si sa compagne simule ? Est-ce qu'il faut chercher à le savoir d'ailleurs ?
Eh bien, il ne le sait pas. Voilà. Sauf si elle est vraiment très 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 mauvaise et qu'elle a trop, qu'elle s'est trop calée sur les films porno. Mais parce que c'est tellement intime la jouissance. C'est-à-dire que les hommes, assez naturellement, cherchent à savoir. Pourquoi ? Parce que eux, ils savent quand ils sont excités, puisqu'ils voient qu'ils ont des érections. Eux, ils sont dans un monde d'évidence pour eux-mêmes et semble-t-il pour les femmes, à tort d'ailleurs, une évidence aussi de leur, enfin, dans leur regard sur les hommes, pensant qu'elles ont, elles ont la maîtrise de ce qui se passe pour eux. Donc assez légitimement, les hommes veulent savoir, c'est-à-dire qu'ils caressent, ils touchent, ils pénètrent, ils heurtent.
Ils veulent savoir si c'est efficace.
Donc
quoi.
Ils veulent savoir si ça marche. Et quand une femme est silencieuse, ils se disent « mais je suis nulle », donc ils ont besoin de voir et ils ont besoin d'entendre. Et les films pornographiques nous ont beaucoup abîmés de ce point de vue-là, puisqu'ils ont donné un seul et unique modèle de jouissance. Mmh. Alors que c'est très intime, ça peut être un frémissement intérieur absolument délicieux, d'une profondeur incroyable,
sans qu'il y ait aucun bruit,
sans pour autant faire des bruits. Et puis heureusement, parce que sinon il faudrait déménager les enfants, attendre les vacances éventuellement, habiter à l'autre aile du château, enfin c'est assez compliqué aussi. Donc ne cherchons pas les lèvres qui changent de couleur, les pupilles, parce qu'il suffit de mettre dans le noir pour qu'elles se dilatent, les seins qui se contractent, puisque c'est pas vrai pour tous les seins de femmes qui n'ont pas les mêmes réactions, les peaux qui ont de la chair de poule. À chacune son mode d'expression, faisons-nous confiance et cherchons chacun notre plaisir.
Du coup, est-ce que Luc, parce que bon, sa nouvelle copine, elle a quand même un peu foutu la pagaille, si j'ose dire, elle lui dit, mais l'ancienne, je te jure, elle avait pas de plaisir non plus. Est-ce qu'il devrait la rappeler d'ailleurs, l'ancienne, pour savoir si ben, finalement, elle avait des orgasmes ou pas?
Non, parce que de toute façon, elle lui dira très certainement oui, à moins qu'il se soit quitté en très mauvais termes, ou quelqu'un lui dira non, même si elle en avait.
Donc ça n'a aucun intérêt.
Donc la réponse sera de toute façon une nouvelle simulation. Donc je pense que la question, c'est simplement de se dire que peut-être qu'en effet, des jeunes gens, il faut quand même se dire que majoritairement, les femmes, je veux dire un truc énorme, hein, mais majoritairement, les femmes découvrent et connaissent l'orgasme aux environs de leurs 40 ans.
Ouh là là, Jimmy, vous avez une autre question. Il a l'air effrayé tout à coup.
Non, mais il y a des jouissances, il y a des plaisirs. Mais voilà.
Justement, est-ce qu'une femme qui simule, c'est une femme qui n'a pas de plaisir?
Non, mais simplement, souvent, c'est une femme qui est inquiète que ça ne vienne pas tout de suite. Donc, elle veut tout de suite dire « je suis OK, c'est bon, c'est génial, continue comme ça ». C'est souvent une façon de dire « ta caresse me plaît, ta façon de m'aborder me plaît, ta façon de me pénétrer me plaît ». Pour autant, elle en dit un peu trop, elle en fait un peu trop, et elle est tellement dans la conversation symbolique avec son partenaire qu'elle en oublie d'être dans la recherche et dans l'écoute et dans l'accueil de ses sensations. Et parfois, elle se met un peu en difficulté pour l'accueillir. Parce qu'il ne faut pas être en train de parler d'un côté et de recevoir de l'autre.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on parlera notamment cannabis thérapeutique. L'Agence du médicament vient de donner son feu vert pour une expérimentation dans quelques maladies. On verra à qui ça s'adresse, sous quelle forme, et si cela ouvre des portes finalement à la légalisation du cannabis récréatif. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, et comme vous avez du goût, je sais que vous allez rester avec nous pour l'équipe sauvage. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité habitué des couloirs d'Europe 1, un des rares humoristes qui peut se prévaloir d'avoir fait rire le public des Césars. Jérôme Commandeur est avec nous jusqu'à 18h.
Merci Mathieu, bonne émission à vous tous. Restez sur Europe 1.